France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, troisième entretien, le début du XXe siècle vécu.
Dans l'entretien que vous avez eu avec Breton et Reverdy, vous disiez ceci. Étant entendu qu'aujourd'hui même, ici même, nous nous exprimons en langue morte, je ne pense pas que nous puissions valablement proclamer autre chose que notre différence et notre orgueil. Dans la langue de l'ennemi, nous ne pouvons guère qu'invoquer notre langue originelle. Nous ne pouvons qu'élargir autant que possible le fossé qui, nous séparant non seulement des littérateurs en général, mais même de la société humaine, nous tient proche de ce monde muet dont nous sommes un peu ici comme les représentants ou les otages. Je voudrais que vous nous disiez quels étaient pour un individu né en 1900 les modes par lesquels la reconversion totale de l'industrie logique, comme vous dites, ou encore selon une autre de vos expressions, l'exercice énergique de la parole pouvait être envisagé. De quelle langue morte, donc? De quels préjugés sociaux, esthétiques, philosophiques il fallait alors sortir pour répondre à l'exigence du temps? Mais peut-être faudrait-il d'abord revenir sur la détermination enfantine qui doit, à ce moment-là, au moment où vous devez prendre en somme une sorte de décision, se poser à vous comme une détermination essentielle.
En effet, il me paraît très utile de revenir, si nous nous plaçons en 1917, à mes déterminations enfantines. D'abord, j'ai noté avec amusement que vous me rajeunissez d'un an. Je ne suis pas né en 1900, mais en 1899. Et peut-être d'avoir eu ainsi un pied, enfin, ou même les deux, dans le 19e siècle, n'est-il pas tout à fait indifférent? Mais enfin, je ne veux pas insister là-dessus. En ce qui concerne ces déterminations enfantines, qui ont certainement eu une importance non seulement pour ma sensibilité, mais aussi pour la forme que j'ai dû chercher à donner à mes textes. Bien de ce point de vue-là, il se trouve que je suis né dans un pays méditerranéen, le midi de la France, à cheval sur le Languedoc et la Provence, d'une famille nîmoise, et dont on sait que c'est la ville la plus romaine de France, et aussi que j'ai vécu ensuite toute ma première enfance à Avignon, c'est-à-dire la ville non plus la plus romaine, mais la plus italienne de France. Ceci est aggravé du fait que ma famille, depuis de très longs siècles, était fixée dans ces régions. Il est certain que je suis une herbe ou une feuille d'un arbre de ces régions. Et que cela m'a déterminé. J'ai eu aussi sous les yeux, au début de mon enfance, des paysages et des architectures et des inscriptions sur les dalles ou les stèles romaines, à Nîmes ou ailleurs, qui ont certainement infléchi ou plutôt confirmé ma personnalité telle qu'elle me venait de mon hérédité. Ceci est très nettement sensible dans tout ce que j'écris. Ensuite, j'ai été transporté ailleurs, n'est-ce pas, puisque dès ma 10e année, j'ai été transporté en Basse-Normandie à Caen, qui est un peu le contraire, si vous voulez, en France, de la Provence. Mais si on veut bien regarder mes textes de ce point de vue, et non seulement du point de vue de mon imprégnation sensible, mais au point de vue aussi de la forme que j'ai cherchée ou qu'instinctivement j'ai voulu leur donner, on trouvera des références à cela. Alors, le nombre des textes où l'on peut chercher et peut-être trouver cela est important. Il faut que je fasse un choix, que j'en élimine beaucoup. Et je veux peut-être parler du Lézard. Ce Lézard qui a été écrit après la Seconde Guerre, donc quand j'avais déjà entre 45 et 50 ans, eh bien, commence ainsi. Lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin, c'est le jardin des générations présentes, celui du père et du fils, il en sort un petit animal formidablement dessiné, etc. Eh bien, ce jardin était celui que nous habitions à Avignon, alors que j'avais moins de 7 ou 8 ans, où, évidemment, mon père était présent. Et ce jardin était clos par un mur, n'est-ce pas? Et les lézards, comme on le sait, enfin, ou comme je les ai conçus, sont des animaux qui sortent des lézardes du mur. D'ailleurs, l'origine de lézard n'est pas là, mais elle est ailleurs. Et par ailleurs, dans le courant même du texte, et si je prends la fin du texte, et alors là, on verra le point de vue formel, je dis que le lézard, pour apparaître, nécessite un ouvrage de maçonnerie comme une terrasse, par exemple, ou un mur. Ce mur de maçonnerie violemment à la surface éclatante, dis-je, est assez fort chauffé par le soleil. Puis, il nécessite aussi une faille dans cet ouvrage, par quoi sa surface communique avec l'ombre et la fraîcheur qui sont en son intérieur ou de l'autre côté. Qu'une mouche de surcroît s'y pose, comme pour faire la preuve qu'aucun mouvement inquiétant n'est en vue depuis l'horizon, par cette faille sur cette surface, apparaîtra alors un lézard qui aussitôt gobe la mouche. Et il est évident que la mouche est aussi quelque chose qui intrigue les enfants, aussi que cette forme, n'est-ce pas, c'est-à-dire une surface de maçonnerie ou de pierre, il est évident, cela aussi est tout à fait constant dans mes textes, que du fait de mon origine méditerranéenne, si vous voulez, je préfère la pierre, par exemple, le roc, à, mettons pour l'architecture, à la brique, si vous voulez. Je préfère les tuiles rondes aux ardoises. Enfin, dans plusieurs de mes textes, j'évoque la tuile ronde, la tuile romaine, comme on l'appelle. Cette forme, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'apparition sur une surface plane et violemment éclairée par une faille zigzagante d'un animal zigzagant, ceci représentant en quelque façon, et c'est dit très nettement dans le texte, aussi l'apparition sur la page des lignes d'écriture, étant entendu que cela vient du plus obscur de l'esprit et aussi du chaos du dictionnaire, cela est très significatif de cette origine, parce qu'il ne faut pas croire. Disant que je suis d'origine méditerranéenne, je ne veux pas dire que ce sont les lieux communs sur les caractères des civilisations de la Méditerranée qui sont en moi. C'est-à-dire pas la clarté, pas la mesure, pas toutes ces histoires qui viennent Dieu sait de quoi, enfin d'une interprétation grotesque de l'histoire ou de l'ethnie, n'est-ce pas? Il est évident qu'il y a autant de baroque, et le lézard est un animal profondément baroque, comme d'ailleurs les troncs d'olivier dans le Midi, il y a autant de noirceur dans le ciel de Provence qu'il n'y a de clarté, enfin ailleurs dans un autre de mes textes, qui s'appelle justement « La Mounine » ou « Sur un ciel de Provence », eh bien, j'émets l'hypothèse quasi-scientifique que si le ciel paraît d'un azur si foncé dans le Midi, c'est probablement qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, ou qu'il y en a moins qu'ailleurs, et que la nuit interstellaire est visible en plein jour, n'est-ce pas? Et donc la nuit, l'éternité nocturne, et tout ce qui est par exemple dans la tragédie grecque, et qui est chez les Étrusques bien avant, et qui est certainement dans les civilisations antérieures de ces régions, est quelque chose de beaucoup plus sauvage et tragique que ce qu'on pense généralement de l'ordre, de la mesure, de la grâce méditerranéenne.
Tout ce que vous venez de dire vous différencie évidemment tout de suite de ce poids classiciste et méditerranéen qui a pesé si lourd et si longtemps sur la littérature française. Clarté, mesure, ordre, rigueur, etc. Je voudrais que vous nous disiez comment justement cette insertion, cet enracinement pour vous dans ce que vous appelez le tragique méditerranéen, la noirceur. Comment vous avez relié cette imprégnation enfantine au problème de la langue elle-même? Comment pour vous le français, comme ce lézard sorti de cette surface du mur du jardin, comment ce français vient de plus loin que lui-même et de plus loin que son apparence ordonnée et mesurée, et ce qui vous y a rendu sensible aussitôt?
Oui, alors là, évidemment, il faut que je parle de l'amour que j'ai eu dès que j'ai commencé à l'apprendre pour la langue latine. Je ne crois pas vraiment, il faudrait être un peu fou pour le dire, que j'ai lu vraiment, pendant que j'étais dans le Midi, c'est-à-dire avant 10 ans ou 11 ans, les inscriptions des stèles funéraires. Non, j'avais une impression de ces blocs de pierre, n'est-ce pas, et de la gravure, des lettres et des mots latins là-dedans, mais je ne les avais pas lus. J'ai commencé à apprendre le latin seulement quand j'ai été transporté, comme je vous l'ai dit, vers ma 10e année, à Caen, au lycée Malherbe, en 6e. Eh bien, là, tout de suite, j'ai commencé à être intéressé par cette langue latine. Ce que j'ai essayé de faire, toujours, et bien sûr que cela vient non pas seulement de la 6e, mais de toutes les études latines que j'ai pu faire jusqu'au moment où j'ai été admissible à la normale supérieure lettres, vient du fait que je conçois pour mes maîtres en littérature, en fait d'écrits français, non pas tellement des écrivains français, je n'en vois aucun dont je puisse dire qu'il a été vraiment mon maître, tandis que si je pense à des auteurs comme Lucrèce ou comme Tacite, il est clair que c'est là que je trouve mes maîtres, parce que c'est chez eux que la densité de la langue latine, qui est déjà fort dense par elle-même, est au maximum. Et c'est là aussi que se trouve le tragique. Inutile de développer, vous le comprenez, n'est-ce pas, chez Lucrèce, c'est clair, et aussi bien son anxiété, et d'autre part, chez Tacite, puisqu'il parle des périodes les plus tragiques de l'histoire romaine. Alors, cette profondeur de la langue française, bien au-delà du classicisme du XVIIe siècle, bien sûr, bien plus tôt que cela, n'est-ce pas, cette profondeur qui lui vient de ses origines latines, est évidemment ce qui me donnait aussi le goût des mots que j'ai commencé à apprendre pendant cette seconde période à Caen. À ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir non seulement les ouvrages latins, mais aussi les dictionnaires français. Mon père avait dans sa bibliothèque le Littré, qui a eu une tellement grande importance pour moi, où j'ai trouvé un autre monde, celui des vocables, des mots français, bien sûr, aussi réel pour moi, aussi faisant partie du monde extérieur, du monde sensible, aussi physique pour moi, que la nature la fusisse elle-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que me plongeant dans le dictionnaire français, dans le dictionnaire littré, parce que ce dictionnaire comporte de longs développements sur l'histoire des mots, la sémantique, et aussi sur l'étymologie, remontant fort souvent, même plus haut que le latin, vers les racines védiques, eh bien, il est certain que là se trouve une des plus fortes imprégnations de mon enfance. Et si l'on veut bien examiner mes textes de ce point de vue, nous aurons à le faire très probablement quand nous en viendrons à mes œuvres de façon proprement dite. Ici, nous sommes un peu trop, d'ailleurs, dans la biographie, mais c'était utile. Eh bien, on verra que je n'ai jamais cherché qu'à redonner à la langue française cette densité, cette épaisseur mystérieuse, bien sûr, qui lui vient de ses origines les plus anciennes, que j'ai voulu en quelque façon, selon une expression qui est la vôtre à propos de l'Autréamont, non seulement regarder en face la langue maternelle, mais aussi bien la langue grand-maternelle ou les aïeuls plus anciennes, n'est-ce pas, et entrer profondément dans ce monde aussi concret, je le répète, et aussi sensible pour moi que pouvaient l'être les paysages, les architectures, les événements du monde extérieur, les choses du monde dit physique. Très souvent, j'ai affirmé que rien ne pouvait être fait de bon en matière d'écriture, aussi bien en matière de peinture ou de musique, enfin, tout autre art de ce genre, si la sensibilité au mode d'expression choisi, en l'espèce pour les écrivains, la langue, n'est-ce pas, les mots, n'était pas au moins égale à la sensibilité au monde extérieur. Il est évident que Van Gogh, par exemple, le dit très précisément dans sa correspondance avec son frère, quand il décrit un paysage. Il ne le décrit pas en disant, voilà, il y a un champ de blé ou de ceci ou de cela. Il dit, j'ai en face, devant ma fenêtre, n'est-ce pas, un champ de jaune de chez quelques marchands de couleurs, n'est-ce pas. C'est évidemment immédiatement transporté dans le langage technique du mode d'expression qu'il a choisi ou qui s'est choisi. Eh bien, alors, ceci est très sensible dans une déclaration que j'ai faite dans un texte qui s'appelle « L'introduction galée », où je dis de façon quasi lyrique « Aux ressources infinies de l'épaisseur des choses rendues par les ressources infinies de l'épaisseur sémantique des mots ». Il y aurait à revenir sur l'expression « rendu » parce que je pense qu'il s'agit de deux mondes absolument différents. Il ne s'agit pas de rendre compte, si vous voulez, du monde physique, mais du fait qu'on peut faire quelque chose de bon dans le monde verbal que si l'on est sensible à ce monde. De ce point de vue encore, je peux citer le premier texte, c'est-à-dire le texte le plus ancien dans mon œuvre publiée. Il s'agit d'un texte qui s'appelle « La promenade dans nos serres » et qui est daté de 1919. J'ai écrit cela alors que j'avais été mobilisé, n'est-ce pas, encore pendant la guerre, et que j'étais malade et dans un hôpital auxiliaire, lequel avait été installé dans la villa d'Henri Bataille, ce qui est assez curieux. Henri Bataille est tellement prôné par Aragon, par exemple, n'est-ce pas, comme poète, hein, ce qui est assez curieux, étant donné ce que je pense, moi, de ce qu'on appelle la poésie. Mais c'était en Île-de-France. C'était contigu au parc de Chantilly, et il y avait là une serre, et c'est sûrement pour ça que j'ai intitulé ce texte « La promenade dans nos serres ». Dans ce texte que je cite volontiers, la sensibilité à ce monde verbal est des plus nettes, n'est-ce pas? Il commence ainsi, « Aux draperies des mots, assemblage de l'art littéraire ». Alors là, je veux encore dire, que je m'en aperçois à l'instant même, que mes formes proprement lyriques, c'est-à-dire commençant par « oh », n'est-ce pas, et « oh ceci, oh cela, oh que j'aime ci, oh que j'aime cela », ne s'adressent généralement justement qu'aux choses du monde verbal. Enfin, et je ne dis pas « oh que vous êtes belle », mais je dis « oh que les mots sont intéressants », n'est-ce pas. Ceci est assez significatif, il me semble. « Aux draperies des mots, assemblage de l'art littéraire, au massif, au pluriel, parterre des voyelles colorées, décor des lignes, ombre de la muette, boucle superbe des consonnes, architecture, fioriture des points et des signes, bref, à mon secours, au secours de l'homme qui ne sait plus danser, qui ne connaît plus le secret des gestes », vous voyez comme cela se réfère à des civilisations dites primitives, enfin, si vous voulez, aux danses, à la saltation des civilisations primitives, et qui n'a plus, dis-je, le courage ni la science de l'expression directe par les mouvements. Grâce à vous, réserves immobiles d'élan sentimentaux, je parle des mots ici, réserve de passion commune sans doute à tous les civilisés de notre âge. Je veux le croire, on peut me comprendre, je suis compris. Que l'éloquence à la lecture, ceci est assez important, c'est-à-dire que le lecteur est ici invoqué déjà en 1919, et l'éloquence du lecteur, n'est-ce pas? Que l'éloquence à la lecture imprime autant de troubles et de désirs, de mouvements commençants, d'impulsions, que le microphone le plus sensible à l'oreille de l'écouteur, étant donné que c'est écrit en 1919 et que les microphones à ce moment-là n'étaient pas du tout courants. Vous voyez aussi la relation avec le monde de la technique la plus avancée à l'époque. Un appareil, dis-je, mais profondément sensible. Et je peux bien avouer que ces derniers jours, j'essaye d'écrire quelque chose pour convaincre nos jeunes gens, si amis des transistors qui les emportent sous le bras et qui se promènent avec eux, qu'un livre, cette espèce de parallélépipède, à peu près de la taille des transistors, n'est-ce pas, est aussi un transistor beaucoup plus sensible et qui peut les porter non seulement à la délectation, mais à l'action du fait du caractère particulier du verbe. Je crois que tout cela est maintenant bien compris, j'espère, cette sensibilité et cette attirance vers le monde verbal dès mon enfance.
Vous venez d'entendre le troisième de la série des entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, le début du XXe siècle vécu. Assistant Jacques Devin. Lundi 24 avril à 22h40, quatrième entretien, vie et travail à l'époque surréaliste, 1917-1930.